All right, now listen, kids. Come on, places, please. It's Boogie Barker Road from the top, and I'll do it with you. You ready? Music! Now give me some nice straight lines, please. Go!
1, 2, 3, 4.
Corps et danse au cinéma, un podcast présenté par le BTS audiovisuel du lycée des Arènes.
1 and 2 and.
Épisode 3, le ciné danse. New York, 1945. L'Amérique sort tout juste de la guerre. Elle est dans un optimisme inébranlable, en même temps qu'elle se complaît de plus en plus dans l'élaboration d'une certaine société de consommation, les yeux rivés sur le futur. Maya Deren, ukrainienne d'origine, y habite depuis une vingtaine d'années. Ses yeux sont, quant à elle, sculptés derrière l'objectif de la caméra. Elle filme des danseurs, leurs mouvements, leurs chorégraphies. Dans une forêt proche de New York, elle demande à un ami à elle, Tali Betty, chorégraphe afro-américain, de danser. Accompagnée d'une caméra 16 mm, Maya le filme. Elle suit les mouvements de Tali avec sa caméra, de loin comme de près, en panoramique comme en plan fixe. Elle continue en le filmant cette fois-ci, dans un salon et dans un musée captant chaque micro-mouvement et geste lent comme rapide du danseur. Ce film sera intitulé « A Study in Choreography for Camera ». Le film est comme les gestes du danseur. D'une grande fluidité, elle décompose ainsi chacun de ses mouvements. C'est ce film qui sera le point de départ de ce qu'on appellera la ciné-danse, c'est-à-dire des danses pour la caméra, soit des danses qui ne pouvaient exister que dans et par le médium cinématographique. Mais comment expliquer l'aspect cinématographique de la ciné-danse? En quoi ces mêmes corps humains sont-ils différents, bougent-ils différemment? Autrement dit, comment est digérée l'inspiration cinématographique qui est réintégrée dans ce médium, et en quoi elle se différencie des autres films sur la danse? Dans un ouvrage d'Erin Branigan, Dance Film Choreography and the Moving Image, les éléments cinématographiques tels que l'éclairage, le montage, la manière de positionner la caméra permettent de transformer le corps. Elles sont pour lui des interprètes tout-puissants qui permettent au corps, devant la caméra, d'être transformé. Une sorte d'impression qu'il existe bel et bien et prend forme au moment d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Le cinéma a permis un nouveau rapport au corps, en particulier avec celui du danseur. Le corps du danseur est maintenant plus libre. Il est libéré des contraintes du temps, tout peut être fait en plusieurs fois comparé à la représentation. Mais il est aussi limité par la fixité de l'image en mouvement, ce qui peut atteindre la fluidité. La danse et le cinéma sont finalement tous deux chorégraphiés, mais c'est l'impact du temps et de l'espace sur le corps qui distingue leurs tendances performatives respectives. Afin de mieux comprendre ces propos assez abstraits, il est important de décomposer la ciné-danse par le biais de ses innovations techniques.
Chapitre 1, espace fragmenté.
Ce qui différencie primordialement la ciné-danse des films de danse classique est sans doute l'éclatement de la frontalité théâtrale. Quand nous assistons à une représentation de danse, nous sommes face au danseur, frontal, fixe à lui, avec un temps qui est continu. La ciné-danse, elle, a la capacité de choisir plusieurs perspectives et donc de faire voler en éclats la perspective frontale traditionnelle d'une représentation. Les films de ciné-danse multiplient les perspectives en fonction des mouvements des danseurs, ils varient les angles de prise de vue, plongée ou contre-plongée, les hauteurs de caméra et en adoptant des points de vue aussi bien latéraux, obliques que frontaux. Là aussi, ou dans un spectacle de danse, le cadre spatio-temporel est le même, le ciné-danse, lui, s'amuse à brouiller les pistes. Le temps devient une matière avec laquelle on joue et qu'on modifie selon sa guise. On peut par exemple décliner les lieux dans lesquels les danseurs évoluent, comme dans le film de Maya Deren, A Study in Choreography for Camera. Maya Deren, pionnière du ciné-danse, a une volonté de sortir d'une démarche cinématographique classique. Elle ne veut pas faire une simple danse filmée et se limiter à un seul et un même espace. Au contraire, elle veut donner de la vie à ses films. Elle veut montrer qu'il n'y a pas que le danseur, mais aussi celui qui filme. Nous avons une sorte de synergie visuelle entre les mouvements filmés, c'est-à-dire ceux du danseur et les mouvements du filmant, de la cinéaste. Le montage a dès lors un rôle très important, car il permet de jouer avec le temps, les lieux et les enchaînements. C'est le montage qui réunit le tout en un seul et unique univers, ce que Maya Deren appelle, de manière très poétique, l'espace planétaire de cette chorégraphie cosmique, préfigurant le ciel de son dernier film. L'espace change, il n'est plus fixe. Ils n'ont pas clairement de devant, de derrière et de côté, tel qu'une étendue désertique ou neigeuse, une forêt ou encore des espaces modelés numériquement qui paraissent infinis. Maya Deren.
La forme spécifique au cinéma n'est pour moi accomplie que quand les éléments, quel que soit leur contexte d'origine, sont reliés conformément au caractère spécial de l'instrument du cinéma lui-même, la caméra et le montage, de façon à ce que la réalité qui émerge soit nouvelle, réalité que seul le film peut accomplir et qui ne peut être accomplie par l'exercice d'autres instruments.
Chapitre 2. Une synthèse de plusieurs arts.
La ciné-chorégraphie est une forme unique, elle n'est traduisible dans aucun autre mode d'expression. C'est une nouvelle réalité spectatorielle, un nouvel espace situé entre l'espace cinéma, l'espace de la scène et l'espace de l'écran. Tout en révélant le propre penchant de Maya Deren pour la chorégraphie, ces films retiennent aussi quelque chose de l'esprit de Catherine Dunham. Le lien entre ces deux figures de l'avant-garde américaine était très prégnant. Les interprètes principaux de Deren étaient des danseurs qu'elle avait connus dans la compagnie de Nam. Elle s'écarte aussi d'une approche documentaire. Il est question de concevoir des films non pas comme simples danses filmées, mais comme films danses, voulant faire la symbiose en deux arts du mouvement. Cette idée nous propulse dans une des sphères les plus importantes de ce qui pourrait définir les ciné-danses, à savoir le travail du bruit.
Chapitre 3. Bruit et ciné-danse.
Si les bruits revêtent une importance singulière dans les ciné-danses, c'est notamment parce que la plupart des œuvres du genre sont dépourvues de scénarios et de dialogues. Elles sont un apport esthétique important. L'oreille du spectateur est plus attentive aux bruits ambiants. Dès lors, la ciné-danse se doit de les utiliser pour créer une atmosphère singulière.
Cette fonction des bruits est d'autant plus cruciale que les corps dans les ciné-danses ne sont bien sûr que des images, des corps technologiquement médiatisés, aplatis, passés en quelque sorte au rouleau compresseur. La captation du son et le travail sonore en post-production constituent donc des étapes essentielles d'un processus de rematérialisation des corps médiatisés.
Sophie Wallon, esthétique et dramaturgie des bruits dans les ciné-danses. Dans l'œuvre Rosas Danse Trosas de la célèbre chorégraphe belge Anne-Theresa de Kirsmaker, quatre danseuses se retrouvent dans une école et font des mouvements à la fois brusques, stricts et rigoureux. Le spectateur comprend au fur et à mesure une certaine rébellion des quatre danseuses face à ces gestes et le lieu strict. Les bruits vont permettre la manifestation de cette tension. D'un côté, la respiration haletante et forte des danseuses amplifiée au mixage semble moins trahir leur fatigue, une forme d'excitation sexuelle. De l'autre côté, les chaises crissent sur le carrelage. Les pas rythmés des jeunes filles résonnent dans les immenses salles vides. Les bruits soulignent l'austérité des lieux et la discipline rigoureuse qui pèse sur elles. C'est finalement la dramaturgie sonore qui permet dans cette ciné-danse de suggérer le conflit dramatique qui s'ignore. Nous avons donc vu autour de deux exemples comment s'articule le squelette des ciné-danses. Figure chimérique au dénominateur artistique multiple, il est question d'interaction avec le spectateur par ses sens et donc d'expérimentation physique dès le processus de création. C'est non seulement la danse du corps mais aussi celle du film. Le concept prend le pas sur l'histoire et chaque opus de cette série sans fin vient prendre certains morceaux du schéma précédent pour le replacer au sein de son propre métabolisme. Autrement dit, c'est un tourbillon semant le trouble, faisant tournoyer et souffler le spectateur pour lui dévoiler à la fin, pour reprendre les mots de Paul Valéry, le sentiment du mystère de cette organisation, de ses ressources, de ses limites, des combinaisons d'énergie et de sensibilité que contient son corps. Podcast écrit par Nicolas Pêche, Arthur Philippe, Louise Labussière, Sacha Guillaume Gangloff, Cyril Latapi. Réalisation Arthur Philippe, Nicolas Pêche. Avec la participation de Nolwenn Zobatende et de Lou Poisson.